Chapitre 5. Richard ne percevait plus l'écoulement du temps. Au cours des jours, ou des semaines, passés dans ce cocon, il avait changé de position. Pendant un de ses premiers sommes, la chose lui avait retiré ses vêtements. Il était à présent allongé sur le dos, soutenu par un amas très dense de filaments qui l'enveloppaient. Il ne se demandait plus par quel miracle il vivait encore. Sitôt qu'il avait faim ou soif, ses besoins étaient satisfaits. Ses déchets corporels disparaissaient en quelques minutes. Respirer était aisé, bien qu'il fût entièrement enchâssé dans cette gangue vivante. Il consacrait d'innombrables heures à observer ce qui l'entourait. En regardant avec soin, il discernait les mouvements constants des minuscules éléments de la créature sessile. Autour de lui, les formes se modifiaient très lentement, mais elles changeaient. Il suivait les déplacements des ganglions. Trois de ces excroissances approchèrent et prirent la configuration d'un triangle devant son visage. Il y avait interaction entre lui et le cocon. Des milliers de filaments adhéraient à son être pendant 15 ou 20 heures, puis se rétractaient. Lorsqu'il n'était pas relié à la chose, il dormait sans faire de rêve. À son réveil, il était alors tendu et agité, mais sitôt que les fils revenaient l'envelopper, il retrouvait sa sérénité. Ses songes étaient très nets lorsque le contact était établi avec l'entité extraterrestre. Il rêvait rarement auparavant et il s'était souvent moqué de l'importance que Nicole accordait à cela. Mais maintenant que ses visions oniriques devenaient plus complexes et bizarres, il comprenait sa femme. Une nuit, il redevint un adolescent et il assista à une représentation de Comme il vous plaira, donnée dans sa ville natale de Stratford-on-Avon. La belle fille blonde qui jouait le rôle de Rosalinde descendit de la scène pour lui murmurer à l'oreille
« Es-tu Richard Wakefield ?»«
Oui. » Elle l'embrassa avec une passion de plus en plus grande. Il sentait sa langue explorer sa bouche et s'éveilla en sursaut, en proie à un désir violent, gêné par sa nudité et son érection. « À quoi rime tout cela ?» se demanda-t-il en empruntant cette phrase à Nicole qu'il avait souvent employée à son réveil. Ses souvenirs de sa femme devenaient également plus nets, plus précis. Il fut surpris de découvrir qu'en l'absence de tout stimulus, il lui suffisait de se concentrer pour reconstituer n'importe laquelle de leurs conversations et voir les expressions avec lesquelles Nicole avait ponctué ses déclarations. Il souffrait de la solitude, et à cause de ses retours en arrière, leur séparation devenait encore plus pénible à supporter. Ses enfants lui manquaient eux aussi, surtout Cathy. Il se rappelait leur dernier entretien quelques jours avant le mariage d'Ali. Elle était venue prendre des vêtements à la maison, déprimée et en quête d'un soutien qu'il n'avait pu lui apporter. Cette Cathy adulte fut remplacée par une fillette de 10 ans qui courait sur les places de New York et il ressentit un profond sentiment de perte. « Je n'ai plus jamais été à mon aise avec elle depuis mon réveil, » comprit-il. « Je l'ai perdue quand nous étions à l'intérieur de ces sarcophages. » La précision de tout cela lui fit comprendre qu'il se produisait un phénomène extraordinaire dans son cerveau. Il ressentait désormais toutes les émotions associées à ces épisodes de son passé, comme s'il les revivait véritablement. Dans le cadre d'un de ses voyages temporels, il éprouva non seulement l'amour et l'adoration que Sarah Tidings lui avait inspiré quand il l'avait vue sur scène pour la première fois, mais aussi l'exaltation de leur rendez-vous et le plaisir intense qui avait accompagné leur premier rapport sexuel. Il ne contrôlait plus son esprit. Au début, c'était volontairement qu'il avait pensé à Nicole, à ses enfants ou même à sa première femme. « À présent, » dit-il, dans le cadre d'une conversation imaginaire avec la créature Cécile, « après avoir rafraîchi ma mémoire, pour des raisons que tu es la seule à connaître, voilà que tu veux lire tout son contenu. » Il aimait ses retours en arrière, surtout ceux qui se rapportaient à Cambridge et à l'Académie spatiale, une époque où la joie de la découverte enrichissait son existence. La physique quantique, l'explosion cambrienne, les probabilités, les statistiques et même le vocabulaire depuis longtemps oublié de ses leçons d'allemand, tout cela lui procurait le bonheur apporté par l'extension du savoir. Il assista à nouveau à toutes les représentations des pièces de Shakespeare qu'il avait été voir entre 10 et 17 ans. Nous avons tous besoin d'avoir un exemple qui nous insuffle la volonté de chercher à développer ce que nous avons en nous de meilleur. Mon modèle était William Shakespeare. Certains souvenirs étaient pénibles, surtout ceux de son enfance. Il se retrouva à 8 ans, assis à la petite table de la salle à manger. Son père était ivre et s'emportait contre le monde entier alors qu'il dînait en silence. Richard renversa un peu de soupe et une seconde plus tard, le dos de la main de son père cinglait sa joue et le faisait tomber sur le sol où il se recroquevilla en tremblant sous l'effet de la peur et du traumatisme. Il sanglota en se rappelant son impuissance et sa terreur face à un père névrosé et violent. Puis, il commença à se remémorer des bribes de sa longue odyssée dans Rama 2, ce qui s'accompagna d'une forte migraine. Il était dans une étrange pièce, allongé sur le sol et entouré par quelques octopodes. Des douzaines de sondes et autres instruments étaient plantés en lui et une expérience était en cours.
« Arrêtez ! Arrêtez ! » hurla-t-il. « Ma tête va exploser !»
La souffrance décrut aussitôt, bien qu'il fût toujours au milieu des octopodes. Il se rappelait à présent leur avoir servi pendant longtemps de cobaye quand ils avaient injecté dans son corps des créatures microscopiques. Il se souvenait aussi d'une série d'expérimentations sexuelles qui consistaient à le soumettre à une multitude de stimulations et à le récompenser à chaque éjaculation. L'ouverture des cases de sa mémoire auxquelles il n'avait pas eu une seule fois accès depuis sa sortie du coma le sidérait. Je découvre d'autres détails sur les octopodes. Ils communiquaient entre eux en s'adressant des messages colorés qui effectuaient un tour complet de leur crâne. Leur attitude était amicale, mais ils étaient bien décidés à tout apprendre sur moi. Tout s'effaça et il eut à nouveau des migraines. Les filaments venaient de se détacher de son corps. Épuisé, il s'endormit presque aussitôt. Après des jours et des jours consacrés à l'exploration de sa mémoire, tout s'interrompit soudain. Son cerveau n'était plus contrôlé de l'extérieur. Le cocon ne s'unissait plus à lui que rarement. Une semaine s'écoula ainsi, puis un ganglion sphérique bien plus gros et dense que les autres se matérialisa à environ 20 cm de sa tête. Il se développa, et lorsqu'il fut aussi gros qu'un ballon de basket, il en sortit des centaines de cires qui s'insérèrent sous le pourtour de la boîte crânienne de Richard. « Enfin !» se dit-il sans prêter attention à la souffrance. « Je vais peut-être apprendre quelle est la finalité de tout ceci. » Il discerna une image trop trouble pour qu'il pût savoir ce qu'elle représentait. Cependant, la qualité ne tarda guère à s'améliorer et il put bientôt voir ce que voulait lui montrer l'extraterrestre. Il y eut tout d'abord une planète telle qu'on pouvait la découvrir depuis l'espace. Ce monde nuageux accompagné de 2 petites lunes recevait la chaleur et la lumière d'une lointaine étoile jaune. Richard supposa qu'il s'agissait du monde d'origine du cocon qui lui montra ensuite divers paysages. Un épais brouillard estompait toute chose. Sous la nappe de grisaille, la surface était brune, dénudée, rocailleuse. C'était seulement sur le littoral, là où les vagues des lacs et des océans se lançaient à l'assaut du sol aride, qu'on discernait quelques traces de vie. Dans une oasis, Richard vit des aviens et un bestiaire fascinant d'autres créatures. Il eut passé des jours à analyser une seule de ces images, mais il ne contrôlait pas la rapidité de leur défilement. L'extraterrestre avait un message à lui transmettre et la première série de vues ne constituait qu'une introduction. Il vit ensuite un avien, une pastèque-man, un mirmichat, un cocon et des combinaisons de ces quatre éléments. Richard supposait qu'on lui montrait des scènes de la vie quotidienne sur leur planète d'origine, un diaporama qui avait pour thème la symbiose entre ces espèces. Des aviens défendaient les colonies souterraines des mirmichats et des cocons contre des envahisseurs aussi différents que des plantes et d'étranges bestioles. En contrepartie, les mirmichats s'occupaient des nouveau-nés des aviens et transportaient vers leur nid des monceaux de pastèque-man. Richard fut déconcerté de voir également des œufs de mirmichats à l'intérieur des cocons. Pourquoi vont-ils pondre là-dedans? Pour que l'entité assure la protection de leurs embryons? Se pourrait-il que je sois dans du placenta doué de raison? Il se dégagea de la succession d'images que les cocons devaient être, sur un plan hiérarchique, l'espèce dominante de ce monde. Les autres créatures semblaient les révérer. Est-ce qu'ils pensent à leur place? Cette symbiose est sidérante. Comment l'évolution a-t-elle pu arriver à ce résultat? Il y avait en tout des milliers de clichés. Il les visionna deux fois, puis les cires se détachèrent et se rétractèrent dans le gros ganglion. Au cours des jours suivants, Richard resta livré à lui-même. Son hôte se contentait désormais de satisfaire ses besoins matériels. Quand un couloir s'ouvrit dans la masse filamenteuse et que Richard put voir la porte qu'il avait franchie à son arrivée, il crut qu'on allait le libérer. Mais sa joie fut de courte durée. Sitôt qu'il tenta de bouger, l'être sessile renforça sa prise sur toutes les parties de son corps. Alors à quoi sert ce tunnel? Il vit trois mirmichats approcher. Celui du centre avait deux pattes brisées et son segment arrière était réduit en bouillie. Ses compagnons le portèrent à l'intérieur, puis repartirent. Peu après, les filaments enveloppaient le nouvel arrivant. Seulement 2 mètres les séparaient. Entre eux, filarachnéen et ganglion disparurent. Mon éducation se poursuit. Que suis-je censé apprendre? Que les cocons soignent les mirmichats au même titre que les mirmichats soignent les aviens? Il se trompait. Pendant une longue période de veille, il vit les extensions de leur hôte former une chrysalide autour de la malheureuse créature et le gros ganglion se diriger vers elle. Plus tard, au réveil d'un petit somme, Richard remarqua que le ganglion était revenu près de lui. À l'extrémité opposée de la percée ouverte dans la substance cotonneuse, les filaments se rétractaient. Le pouls de Richard s'emballa quand il constata que la chrysalide avait disparu, de même que le mirmichat. Il n'eut pas le loisir de faire des suppositions sur le sort qui lui avait été réservé, car les cires du gros ganglion pénétrèrent à nouveau son crâne et une nouvelle séance de projection débuta dans son esprit. 5 soldats humains bivouaquaient au bord de la douve. Ils avaient près d'eux un arsenal impressionnant, dont 2 mitrailleuses. Puis Richard vit des scènes de bataille. 2 d'entre elles étaient tout particulièrement horribles. Dans la première, un jeune avien décapité en plein vol s'abattait vers le sol pendant que 2 hommes se congratulaient. Dans la seconde, une grande fosse avait été creusée au milieu d'une prairie de la région verte. Les cadavres de nombreux aviens s'entassaient dans ce trou et un humain approchait en poussant devant lui une brouette contenant 2 autres corps. Richard était atterré. « Qu'est-ce que c'est? Et pourquoi me montre-t-on ces atrocités ?» Il comprit que le cocon avait puisé ces images dans l'esprit du mirmichat blessé pour les transférer dans son cerveau. Il prêta encore plus d'attention à ce qu'il voyait. Il était outré par cette invasion et ces massacres. Il vit 3 humains attaquer un logement dans le cylindre brun et ne laisser aucun survivant. Ces malheureux sont perdus. Ils en ont conscience. Savoir que les hommes perpétraient un tel génocide l'emplit de tristesse et il pleura.
Non, non, arrêtez, je vous en supplie. Ne voyez-vous pas de quoi vous vous rendez coupable? Les aviens sont comme nous le fruit de l'évolution. Ils sont nos semblables, ils sont nos frères.
Des souvenirs de ses nombreux contacts avec les créatures ailées chassèrent ces images épouvantables.
Elles m'ont sauvé la vie,
se dit-il en pensant à la traversée de la mer cylindrique, sans en tirer le moindre profit. Quel humain en eût fait autant pour une d'entre elles ? Richard pleurait rarement, mais sa compassion était trop grande. Il se rappela ce qui lui était arrivé depuis son entrée dans leur habitat, leur brusque changement d'attitude et finalement son transfert dans le secteur des Mirmisha.
J'ai eu droit à une visite guidée avant d'être conduit ici. Il est évident que tous ces êtres voulaient communiquer avec moi.
Mais dans quel but ? Parce qu'ils sont désespérés, se répondit-il en pleurant de plus belle.
Ils m'implorent de leur venir en aide.